Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Neuvième épisode.
Le lendemain de la mort de M. Bovary, la mère de Charles arriva. Il fallut aviser ensemble aux affaires de deuil. On alla s'asseoir avec les boîtes à ouvrage au bord de l'eau sous la tonnelle. Tout à coup, ils virent entrer par la barrière M. Lheureux, le marchand d'étoffes. Il venait offrir ses services, eu égard à la fatale circonstance. Emma répondit qu'elle croyait pouvoir s'en passer. Le marchand ne se tint pas pour battu.
Je désirerais avoir un entretien particulier avec monsieur. C'est relativement à cette affaire, vous savez.
Ah, oui, effectivement. Emma, ne pourrais-tu pas, ma chérie ?
Oui.
Merci. Ce n'est rien, mère. Sans doute quelques bagatelles de ménage.
Dès qu'ils furent seuls, monsieur Lheureux se mit en termes assez nets à féliciter Emma sur la succession, puis à causer de choses indifférentes. Emma le laissait parler. Elle s'ennuyait si prodigieusement depuis 2 jours.
Et vous voilà donc tout à fait rétabli. Ma foi, j'ai vu votre pauvre mari dans de beaux états. C'est un brave garçon, quoique nous ayons eu ensemble des difficultés.
Lesquelles ?
Mais vous le savez bien. C'était pour vos petites fantaisies, les boîtes de voyage. Mais je ne veux pas le tourmenter maintenant qu'il va avoir une foule d'embarras. Il ferait mieux de s'en décharger sur quelqu'un. Sur vous, par exemple. Avec une procuration, ce serait commode. Et alors, nous aurions ensemble de petites affaires. Nous verrons cela. Vous ne pouvez cependant pas vous dispenser de me prendre quelque chose aujourd'hui. Je vais vous envoyer un barège noir, 12 mètres, de quoi faire une robe. Celle que vous avez là est bonne pour la maison. Il vous en faut une autre. J'ai vu ça, moi, au premier coup d'œil.
Il n'envoya point l'étoffe, il l'apporta. Puis il revint sous d'autres prétextes, tâchant chaque fois de se rendre aimable, serviable, Saint-Féodant, comme eût dit Homais, et toujours glissant à Emma quelques conseils sur la procuration. Il ne parlait point du billet. Elle n'y songeait pas. Dès que Madame Bovary, mère, fut partie, Emma ne tarda pas à émerveiller Bovary par son bon sens pratique. Il allait falloir prendre des informations, vérifier les hypothèques, voir s'il y avait lieu à une licitation ou à une liquidation. Elle citait des termes techniques, au hasard, prononçait les grands mots d'ordre, d'avenir, de prévoyance, et continuellement exagérait les embarras de la succession. Si bien qu'un jour, elle lui montra le modèle d'une autorisation générale pour gérer et administrer ses affaires, faire tous les emprunts, signer et endosser tous les billets, payer toutes les sommes, etc.
Mais d'où vient ce papier ?
De Monsieur Guillaumin. Je ne m'y fie pas trop. Les notaires ont si mauvaise réputation. Il faudrait peut-être consulter. Nous ne connaissons que... Oh, personne.
À moins que Léon... Mais je ne peux m'absenter et il serait difficile de traiter cela par correspondance.
Je peux faire le voyage si tu veux.
Non, non.
Oh, si, si, je t'en prie, j'irai.
Comme tu es bonne.
Dès le lendemain, elle s'embarqua dans l'hirondelle pour aller à Rouen consulter M. Léon. Et elle y resta 3 jours. Ce furent 3 jours pleins, exquis, splendides, une vraie lune de miel. Ils étaient à l'hôtel de Boulogne, sur le port. Et ils vivaient là, volets fermés, portes closes, avec des fleurs par terre et des sirops à la glace qu'on leur apportait dès le matin. Vers le soir, il prenait une barque couverte et allait dîner dans une île.
Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence.
Il se plaçait dans la salle basse d'un cabaret. Il mangeait de la friture d'éperlan, de la crème et des cerises. Ils se couchaient sur l'herbe, ils s'embrassaient à l'écart sous les peupliers, et ils auraient voulu, comme deux Robinson, vivre perpétuellement dans ce petit endroit qui leur semblait, en leur béatitude, le plus magnifique de la terre. Il fallut pourtant se séparer.
Adieu. Adieu. Quand te reverrai-je? Je vais trouver un moyen pour qu'on se voie en toute liberté, une fois par semaine. Je te le promets.
Comment?
Je trouverai. Pour la procuration, tu m'affirmes que tout est bien?
Oui. Certes.
Ce fut vers cette époque, c'est-à-dire vers le commencement de l'hiver, qu'elle parut prise d'une grande ardeur musicale.
Bravo, Emma, bravo, très bien. Continue donc.
Et non, c'est exécrable. J'ai les doigts rouillés. Ah, c'est fini. Il faudrait que je prise des leçons, mais... 20 francs par cachet, c'est trop cher.
Oui, oui, en effet, un peu. Pourtant, il me semble que l'on pourrait peut-être à moins, car il y a des artistes sans réputation qui souvent valent mieux que les célébrités.
Cherche-les.
Le lendemain, en rentrant, il la contempla d'un air finaud.
Quel entêtement tu as parfois.
J'ai été à Barfechère aujourd'hui. Eh bien, Madame Liégeard m'a certifié que ces trois demoiselles prenaient des leçons moyennant 50 sous la séance et d'une fameuse maîtresse encore.
Elle haussa les épaules et ne rouvrit plus son instrument.
Ah, mon pauvre piano.
Et quand on venait la voir, elle ne manquait pas de vous apprendre qu'elle avait abandonné la musique et ne pouvait maintenant s'y remettre pour des raisons majeures. Alors on la plaignait. C'était dommage, elle qui avait un si beau talent. On en parla même à Bovary. On lui faisait honte.
Si tu voulais, de temps à autre, une leçon, cela ne serait pas, après tout, extrêmement ruineux.
Mais les leçons ne sont profitables que suivies.
Et voilà comment elle s'y prit pour obtenir de son époux la permission d'aller à la ville une fois la semaine voir son amant. On trouva même, au bout d'un mois, qu'elle avait fait des progrès considérables.
Que nous serions bien là pour vivre.
Ne sommes-nous pas heureux?
Oui, c'est vrai. Je suis folle. Embrasse-moi.
Comme ils aimaient cette bonne chambre pleine de gaieté, malgré sa splendeur un peu fanée. Ils disaient notre chambre, notre tapis, nos fauteuils. Même elle disait mes pantoufles. Un cadeau de Léon, une fantaisie qu'elle avait eue. C'était des pantoufles en satin rose, bordées de cygnes. Quand elle s'asseyait sur ses genoux, sa jambe alors trop courte pendait en l'air, et la mignarde chaussure, qui n'avait pas de quartier, tenait seulement par les orteils, à son pied nu. Léon savourait pour la première fois l'inexprimable délicatesse des élégances féminines. D'ailleurs, n'était-ce pas une femme du monde? Une femme mariée, une vraie maîtresse, enfin. Par la diversité de son humeur, tour à tour mystique ou joyeuse, babillarde, taciturne, emportée, nonchalante, elle allait rappelant en lui mille désirs, évoquant des instincts ou des réminiscences. Elle était l'amoureuse de tous les romans, l'héroïne de tous les drames, le vague « elle » de tous les volumes de vers.
Oh, ne bouge pas. Ne parle pas. Regarde-moi. Il sort de tes yeux quelque chose de si doux qui me fait tant de bien. Enfant, m'aimes-tu? Ah. Tu me quitteras, toi. Tu te marieras. Tu seras comme les autres.
Quels autres?
Ben les hommes, enfin. Vous êtes tous des infâmes.
Elle était pour son mari plus charmante que jamais, lui faisait des crèmes à la pistache, et jouait des valses après dîner. Il se trouvait donc le plus fortuné des mortels. Et Emma vivait sans inquiétude lorsqu'un soir, tout à coup...
C'est Mademoiselle l'Empereur, n'est-ce pas, qui te donne des leçons ?
Oui.
Eh bien, je l'ai vue tantôt chez Madame Liégeard. Je lui ai parlé de toi, elle ne te connaît pas.
Ah ? Sans doute elle aura oublié mon nom.
Mais il y a peut-être à Rouen plusieurs demoiselles l'Empereur qui sont maîtresses de piano.
C'est possible. J'ai pourtant ces reçus, tiens. Où est-ce que j'ai bien pu les mettre ? Attends, je vais les trouver. Attends. Comment c'est possible ?
Ne te donne pas autant de mal, Emma.
Oh, je les trouverai.
En effet, dès le vendredi suivant, Charles, en passant une de ses bottes dans le cabinet noir où l'on serrait ses habits, sentit une feuille de papier entre le cuir et sa chaussette.
Reçu pour 3 mois de leçons plus diverses fournitures la somme de 65 francs, Félicie l'Empereur, professeur de musique.
Mais comment diable est-ce dans mes bottes ?
Ce sera sans doute tombé du vieux carton aux factures qui est sur le bord de la planche.
À partir de ce moment, son existence ne fut plus qu'un assemblage de mensonges où elle enveloppait son amour comme dans des voiles pour le cacher. Un jour pourtant, M. Lheureux la rencontra qui sortait de l'hôtel de Boulogne au bras de Léon. Et elle eut peur, s'imaginant qu'il bavarderait. Il n'était pas si bête. Mais 3 jours après, il vint la voir et dit avoir besoin d'argent. Elle déclara ne pas pouvoir lui en donner. Lheureux se répandit en gémissements et rappela toutes les complaisances qu'il avait eues. En effet, des 2 billets souscrits par Charles, Emma jusqu'à présent n'en avait payé qu'un seul. Quant au second, le marchand, sur sa prière, avait consenti à le remplacer par 2 autres, qui même avaient été renouvelés à une fort longue échéance. Puis il tira de sa poche une liste de fournitures non soldées dont la valeur se montait à la somme de 2 000 francs environ.
Mais si vous n'avez pas d'espèces, vous avez du bien.
Et il indiqua une méchante masure, sise à Barneville, qui ne rapportait pas grand-chose. Cela dépendait autrefois d'une petite ferme vendue par M. Bovary père, car Lheureux savait tout, jusqu'à la contenance d'hectares avec le nom des voisins.
Moi, à votre place, je me libérerai, et j'aurai encore le surplus de l'argent.
Mais comment trouver un acquéreur ?
Je me charge de vous en trouver un.
Et comment puis-je faire pour vendre ?
N'avez-vous pas votre procuration ?
Ce mot lui arriva comme une bouffée d'air frais.
Laissez-moi la note.
Oh, ce n'est pas la peine.
Il revint la semaine suivante et se vanta d'avoir, après force démarche, fini par découvrir un certain Langlois qui, depuis longtemps, guignait la propriété. Il proposait 4 000 francs. Emma s'épanouit à cette nouvelle.
Franchement, c'est bien payé. Tenez, je vous remets la moitié de la somme immédiatement. Vous toucherez le reste plus tard.
Bien, alors je vais vous rembourser.
Ça me fait de la peine, parole d'honneur, de vous voir vous dessaisir tout d'un coup d'une somme aussi conséquente que celle-là.
Comment ?
Oh, on met tout ce que l'on veut sur les factures. Est-ce que je ne connais pas les ménages ? Tenez, 4 billets à ordre de 1 000 francs chacun. Signez-moi cela et gardez tout.
Non, non.
Mais si je vous donne le surplus, n'est-ce pas vous rendre service à vous ? Reçu de Madame Bovary, 4 000 francs. Qui vous inquiète, puisque vous toucherez dans 6 mois l'arriéré de votre baraque et que je vous place l'échéance du dernier billet pour après le paiement.
Emma s'embarrassait un peu dans ses calculs. Et les oreilles lui tintaient comme si des pièces d'or s'éventrant de leur sac eussent sonné tout autour d'elle sur le parquet. Enfin, Lheureux expliqua qu'il avait un ami, Vinçard, banquier à Rouen, lequel allait escompter ses 4 billets, puis il remettrait lui-même à madame le surplus de la dette réelle. Mais au lieu de 2 000 francs, il n'en apporta que 1 800, car l'ami Vinçard, comme de juste, en avait prélevé 200 pour frais de commission et d'escompte. Puis Lheureux réclama négligemment une quittance avec la date.
Bovary.
Vous êtes bien matinal, monsieur Homais.
Ah, c'est que je fais le voyage avec vous aujourd'hui.
Lors d'un dîner chez le pharmacien, Léon s'était cru contraint, par politesse, de l'inviter à son tour. Et ce jeudi, il eut beau se débattre, monsieur Homais l'entraîna vers le grand café de Normandie. Emma attendit Léon, perdu dans toutes sortes de conjectures, l'accusant d'indifférence et se reprochant à elle-même sa faiblesse. Elle passa l'après-midi le front collé contre les carreaux. Léon pourtant finit par se débarrasser de monsieur Homais et courut d'un bond jusqu'à l'hôtel. Emma n'y était plus. Elle venait de partir, exaspérée. Elle le détestait maintenant. Ce manque de parole au rendez-vous lui semblait un outrage et elle cherchait encore d'autres raisons pour s'en détacher. Il était incapable d'héroïsme, faible, banal, plus mou qu'une femme, avare d'ailleurs et pusillanime. Puis, se calmant, elle finit par découvrir qu'elle l'avait sans doute calomnié. Mais le dénigrement de ceux que nous aimons toujours nous en détache quelque peu. Il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. Elle se promettait continuellement pour son prochain voyage une félicité profonde. Puis elle s'avouait ne rien sentir d'extraordinaire. Cette déception s'effaçait vite sous un espoir nouveau et Emma revenait à lui plus enflammée, plus avide. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Et pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine avec un long frisson. Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ses lèvres balbutiantes, dans ses prunelles égarées, dans l'étreinte de ses bras, quelque chose d'extrême, de vague et de lugubre qui semblait à Léon se glisser entre eux, subtilement, comme pour les séparer.
Serviteur, je suis à vous. Suivez-moi. Quoi de neuf ?
Tenez, je viens de recevoir cette enveloppe.
Eh bien, qui puis-je ?
Vous m'aviez donné votre parole, monsieur. Vous vous étiez engagé à ne pas faire circuler ces billets.
Certes, mais j'ai été forcé moi-même. J'avais le couteau sous la gorge.
Et que va-t-il arriver maintenant ?
Oh, c'est bien simple. Un jugement du tribunal, et puis la saisie.
Y aurait-il un moyen de calmer ce monsieur Vinçart ?
Ah bien oui, calmer Vinçart. Vous ne le connaissez guère. Écoutez donc, il me semble que jusqu'à présent, j'ai été assez bon pour vous. Madame, un pauvre boutiquier comme moi, que personne ne paie. Non, non, je ne peux pas vous faire d'avance. Ah, au moins, si un de ces jours j'avais quelques rentrées, je pourrais...
Du reste, dès que l'arriéré de Barneville...
Comment ? Langlois ne vous a pas encore payé ? Et nous convenons, dites-vous ?
Oh, de ce que vous voudrez.
La chose est scabreuse. Sachez que je me saigne. Je vous fais 4 billets de 250 francs chacun, espacés les uns des autres, à un mois d'échéance.
Oui.
Pourvu que Vinçart veuille m'entendre. Tenez. Regardez ce que j'ai trouvé dernièrement. 3 zones de guipure. Est-ce beau ? Emportez-la.
Au moins que je sache combien...
Oh, plus tard.
Pour se faire de l'argent, elle se mit à vendre ses vieux gants, ses vieux chapeaux, la vieille ferraille. Et elle marchandait avec rapacité. Son sang de paysanne la poussait au gain. Elle s'acheta des plumes d'autruche, de la porcelaine chinoise et des bahuts. Elle empruntait à tout le monde, n'importe où. Avec l'argent qu'elle reçut enfin de Barneville, elle paya 2 billets. Les 1500 autres francs s'écoulèrent. Elle s'engagea de nouveau, et toujours ainsi. Parfois, il est vrai, elle tâchait de faire des calculs, mais elle découvrait des choses si exorbitantes qu'elle n'y pouvait croire. Alors elle recommençait, s'embrouillait vite, plantait tout là et n'y pensait plus. La maison était bien triste maintenant. On en voyait sortir les fournisseurs avec des figures furieuses. Il y avait des mouchoirs traînant sur les fourneaux et la petite Berthe, au grand scandale de Madame Homais, portait des bas percés. Si Charles, timidement, hasardait une observation, elle répondait avec brutalité que ce n'était point sa faute. Après le dîner, il se promenait seul dans le jardin. L'automne commençait et déjà les feuilles tombaient, comme il y a 2 ans, lorsqu'elle était malade. Quand donc tout cela finira-t-il? Et il continuait à marcher, les 2 mains derrière le dos. Madame était dans sa chambre. On n'y montait pas. Pour ne pas avoir la nuit auprès d'elle, cet homme étendu qui dormait, elle finit, à force de grimaces, par le reléguer au second étage. Et elle lisait jusqu'au matin des livres extravagants où il y avait des tableaux orgiaques avec des situations sanglantes. Souvent, une terreur la prenait, elle poussait un cri, Charles accourait.
Oh, va-t'en !
Ou d'autres fois, haletante, émue, tout en désir, elle ouvrait sa fenêtre, aspirait l'air froid, éparpillait au vent sa chevelure trop lourde, et regardant les étoiles, souhaitait des amours de prince. Elle pensait à lui, à Léon. Elle eut alors tout donné pour un seul de ses rendez-vous qui la rassasiait. C'était ses jours de gala. Elle les voulait splendides. Et lorsqu'il ne pouvait payer seul la dépense, elle complétait le surplus libéralement, ce qui arrivait à peu près toutes les fois. Un jour, elle tira de son sac 6 petites cuillères en vermeil, c'était le cadeau de noces du père Rouault, et le pria d'aller immédiatement porter cela, pour elle, au Mont-de-Piété. Et Léon obéit, bien que cette démarche lui déplût. Il avait peur de se compromettre. Il s'ennuyait maintenant lorsqu'Emma, tout à coup, sanglotait sur sa poitrine, et son cœur, comme les gens qui ne peuvent endurer qu'une certaine dose de musique, s'assoupissait d'indifférence au vacarme d'un amour dont il ne distinguait plus les délicatesses. Il se connaissait trop pour avoir ces ébahissements de la possession qui en centuple la joie. Elle était aussi dégoûtée de lui qu'il était fatigué d'elle. Emma retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. Elle éprouvait maintenant une courbature incessante et universelle. Souvent même, Emma recevait des assignations, du papier timbré qu'elle regardait à peine. Elle aurait voulu ne plus vivre, ou continuellement dormir.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. 9e épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Cyril Descours, Hervé Pierre, Bernard Bouillon, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillot. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Manuel Couturier, Éric Villenfant. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.